Et ce matin, dans le 8h30, j'accueille le lieutenant Frédéric François. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pompier du côté de Fort-Calquier. Pourquoi vous invitez aujourd'hui ? Parce que vous êtes de retour de Mayotte. Vous êtes parti sur l'île le 3 janvier dernier, retour le 25 janvier. Mayotte qui a été frappée très durement par le cyclone Chido, d'une violence inouïe qui l'a dévasté. C'était le samedi 14 décembre. Pourquoi êtes-vous parti sur place ? C'est quelque chose qui vous a touché personnellement ?
C'est vrai que cette catastrophe qui a touché un département français m'a beaucoup marqué. Et en plus, c'est vrai que c'est le genre de mission que j'ai l'habitude de faire parce que je suis infirmier aussi à la réserve sanitaire. Donc j'interviens des fois, j'ai déjà intervenu sur deux cyclones, notamment à Saint-Martin pour Irma. C'est vrai que dès que si je peux me rendre utile, j'essaye de me rendre disponible dès que possible.
On a souvent l'habitude de dire que les 10 des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Provence partent en renfort du côté de la Corse, par exemple, ou du Var. Quand il y a des incendies, on a moins l'habitude de dire qu'ils partent en renfort après une catastrophe naturelle. Pourtant, vous êtes formé aussi à intervenir dans ce genre de situation.
Oui, c'est vrai que c'est un peu une première, en tout cas pour des déplacements aussi lointains. Après, c'est vrai qu'il y a une mobilisation énorme de tous les services français pour cette catastrophe à Mayotte. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup de services à être impliqués. Oui, c'est une grosse mobilisation de l'État français et de tous ces services. Ouais. Et c'est vrai que donc du coup, pour 04, une première, je pense, pour des départements si lointains.
Vous l'avez dit, vous êtes déjà intervenu sur le cyclone Irma. Cette fois, c'est le cyclone Chido. Quelles sont les particularités après ce genre de catastrophe naturelle quand on arrive sur place ?
On arrive, c'est le chaos. Hein. On voit des véhicules détruits, des toits enlevés, des bateaux sur la route, en plein milieu d'une route. C'est l'image de chaos. Et d'ailleurs, c'est dur après de s'y habituer. D'ailleurs, ces images-là sont terribles. Mais du coup, il faut vite passer à l'action pour essayer de les aider au maximum. C'est vrai que ces images de chaos, elles restent un petit peu gravées dans les mémoires quand même. Ouais, ça marque.
Il y a des contraintes particulières et contraintes notamment, j'allais dire techniques, parce que on suppose aussi que ça a été très compliqué pour établir l'électricité dans tous les territoires de l'île.
Oui. Bah alors il y a quand même beaucoup de services qui sont affairés, mais c'est vrai que nous, quand on est arrivé, il y avait encore certaines parties de l'île sans électricité, sans eau, ou alors avec des coupures récurrentes. Donc oui, c'est vrai que il faut s'y adapter. Mais petit à petit, surtout là, moi je suis resté 3 semaines, petit à petit on voyait quand même le progrès sur ces points-là, et c'est rapidement quoi, c'est vraiment revenu, même s'il y a encore des coupures d'eau, et il y avait quand même des problèmes déjà à l'origine sur cette île au niveau de l'eau.
Ouais. Quelles ont été vos missions d'ailleurs sur place en tant que pompier, et vous l'avez précisé aussi, vous êtes infirmier.
Alors au départ, on est parti dans une mission de PMA, c'est-à-dire de faire les hôpitaux de campagne, on va dire entre guillemets, pour s'il y avait beaucoup de victimes à faire. Et c'est vrai que quand on est arrivé, il y avait pas de victimes immédiates liées au cyclone, hein, parce que c'est vrai que ça faisait déjà au moins 14 jours. Donc du coup, on nous a rapidement transformé en équipe de soutien à la population. Ils appelaient ça USP. Et du coup, on a continué à faire beaucoup de soins. Nous, on a fait des soins dans les bangas, ce qu'on appelle les bangas, c'est les sortes d'un peu de bidonvilles avec des personnes réfugiées. Mais aussi, on a fait des soins à la population dans les villes. Et on a surtout commencé à faire des soins dans les dispensaires. On a relancé toute l'activité de soins de ville dans les dispensaires. On a soutenu les petits hôpitaux de campagne. Du coup, petit à petit, voilà, on a reproposé une offre de soins à toutes les populations habitant Mayotte. Voilà.
Au niveau sanitaire, après, c'était compliqué pour les Mahorais ?
Après, justement, non, on a essayé de compenser, de vite apporter les soins à toutes ces personnes.
C'était surtout des soins d'urgence, c'était de la vaccination, vous le disiez, il y a eu des problèmes quand même en alimentation d'eau, forcément aussi, ça peut entraîner certaines maladies.
Oui, il y avait surtout des problèmes digestifs, effectivement, surtout chez les enfants, mais après, qui peuvent exister quand même à toute période de l'année dans ce genre de contrées lointaines. Mais après, on a eu beaucoup de pansements, essentiellement des pansements, alors liés à Chido, liés aussi à l'activité de reconstruction, c'est-à-dire que tout le monde s'affairait à faire des travaux chez eux, donc se blesser forcément avec des tôles, avec des clous. Et puis après, on avait les plaies aussi de tous les jours à gérer, mais en plus dans ce contexte tropical avec des infections très fréquentes. Et, euh, voilà, des problématiques particulières.
Cette semaine, on a parlé d'une autre pompier des Alpes-de-Haute-Provence, Monia, qui a pris la relève. Vous la connaissez ?
Très peu, mais oui, mais je sais, je l'ai eu au téléphone pour lui expliquer le contexte et la préparer, parce qu'elle a pris notre place. Ouais.
Voilà, bah, qu'est-ce que vous lui avez dit justement à Monia, hein, qui est partie ? J'en parle parce qu'en fait, elle a, sur place, la surprise, c'est qu'elle a retrouvé son père, qui lui est pompier dans la Loire, et elle a pris la relève justement aussi de son père. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire quand vous lui avez expliqué un peu le contexte ?
Bah, j'ai expliqué que, à peu près les missions qu'elle allait avoir, hein, parce que nous, on avait des missions de sanitaires, mais on avait aussi des missions, mais on est dans le renfort à la population, donc c'est-à-dire, des fois, il va y avoir des missions de portage d'eau, des missions aussi de formation, on a dû donner des cours, des missions un petit peu, on était un peu les couteaux suisses, là, maintenant, pour Mayotte, pour la reprise, on a bien aussi œuvré pour la réouverture des écoles, c'est la priorité aussi, elles ont réouvert lundi, d'ailleurs. Donc, concernant Monia, c'est vrai que j'ai expliqué ce qu'il attendait, déjà les conditions de logement, les conditions de travail, et puis les missions qu'elle risquait d'avoir. Mais même si ça évolue tous les jours, parce que les missions elles évoluent tous les jours. Mais puis je vais expliquer le contexte, et puis le contexte des îles, les logements, les pathologies possibles, se préparer aux moustiques et à dormir dans un gymnase avec 200 personnes, voilà.
Quand on est pompier, on a l'habitude d'être face à des situations qui sont dramatiques. Est-ce que pour autant, on est habitué ?
On dit toujours ça, tu es habitué, tu es blindé. Non, ça c'est, on ne s'y habitue pas, on ne se blinde pas, c'est pas possible. Ça marque toujours et ça marque les esprits. Surtout là, c'est quand même exceptionnel, hein, c'est quand même le chaos total. Donc on peut pas prétendre s'habituer. C'est chaque situation différente. Il peut y avoir même des situations plus marquantes que d'autres. Des fois, quand on croise un enfant ou quand on croise. Donc moi je peux pas dire que je m'y habitue. J'ai vu beaucoup de malheurs. J'ai travaillé au SAMU. J'ai fait 30 ans que je suis pompier. On peut pas s'habituer aux choses difficiles. Et il y a des images qui nous marqueront. Après, il faut essayer aussi de. Moi je sais que par le travail ou par j'essaie de penser à autre chose. Après, je peux pas dire que je suis traumatisé. Je suis content d'avoir apporté ma pierre à l'édifice, d'avoir aidé les gens, et du coup, je pense que j'ai le sentiment d'avoir bien travaillé. Du coup, ça efface les mauvaises images. Voilà. Et puis, j'ai vu aussi beaucoup d'images positives parce que la solidarité entre nous, l'équipe qui était très soudée, on a aussi croisé des gens qu'on a soignés qui étaient très sympas. Donc, ça marque, moi, je pense que le côté positif est bien plus présent que le traumatisme. Voilà. Mais ça marque quelque chose, ça marque quelqu'un. Et puis, après, on apprend aussi à relativiser quand on revient en France. Les petits pépins tous les jours, on les oublie, on se dit, il va y avoir pire ailleurs. Quoi.
Voilà. Oui, sur ces petits traquages, justement. Est-ce qu'il y a peut-être une expérience que vous aimeriez partager, un souvenir marquant, que vous aimeriez partager avec nous ?
Non, il y en aurait plusieurs, c'est dur à sélectionner, mais c'est vrai que c'était très touchant d'aller faire des soins à toutes ces personnes, à tous ces enfants, surtout. Quelles que soient leurs origines, c'était très marquant. Après, c'est vrai qu'on a, en plus, nous, on a dormi dans un gymnase avec 200 personnes, c'était multiservice, il y avait l'armée, on a fait notre lessive dans une bétonnière, j'ai plein de photos qui sont géniales, et on a quand même vécu aussi la deuxième tempête tropicale, il y a une grosse tempête tropicale, on dormait dans un gymnase, le toit s'est arraché pendant la tempête tropicale. À 5h du matin, on m'a réveillé, le colonel m'a réveillé pour aller faire des reconnaissances suite à cette deuxième tempête tropicale. Donc, on s'est retrouvé avec la pluie dans le gymnase, tous à l'abri. Il y a plein d'images, il y en a plein. Puis après, voilà. C'est dur d'en sélectionner une, mais j'en ai plein dans la tête et plus j'y pense. Il y en a d'autres qui ressortent.
Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de ce partage ce matin sur l'antenne d'Alpe 1, je rappelle, hein, lieutenant Frédéric François, pompier du côté de Fort-Calquier, donc en mission pendant 3 semaines du côté de Mayotte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.